Von Schemener. À ne pas confondre avec Jan von Schemener. Von Schemener, François Kemener, c'est le recteur de la paroisse des Bretons de Paris, la mission bretonne. C'est un ami à moi. L'histoire que je vais vous raconter, je les tiens de von Schemener. Von Schemener, il nous a raconté par une nuit de janvier, un peu comme celle-là, dans une lande, à Carnac, au bas bout des alignements. Vous savez, dans ces champs délaissés où on poussait des arbres de pierre, on ne sait pas trop comment. À gauche, une rangée de cailloux. À droite, la lisière d'un bois de pins maritimes. Au-dessus de nos têtes, un ciel d'un bleu azur. Et le soleil qui brillait. Et tout autour, un vent avec une de ces morsures, une vraie morsure de loup. Une nuit de janvier, quoi. Il me parlait des Anaons, justement. Le peuple des ânes, pour les Bretons. Mais le roi des Anaons, c'est Lankou, Urpôtre Lankou, le père Lankou. Vous le connaissez, Lankou? Vous savez qu'en Bretagne, il va dans ce qu'on appelle les Enchouel Maro, les chemins des morts. À Gerbeau et de la vie, les chemins de la mort et de la vie. Ces chemins qui sont bordés de haies vives, qui font muraille jusqu'au-dessus. Il traverse ces chemins sur sa charrette, Carigal Lankou, la charrette de Lankou. Mais il ne va pas que sur la terre, Lankou, il va aussi sur la mer. Et le navire qu'il emprunte pour venir à nous, on l'appelle le Bagnos, le bateau de nuit. Et c'est une histoire de Bagnos que von Schemener m'a raconté sur la lande à Carnac, une nuit de janvier. Un amzer dro, un ankou sko. Le temps passe, Lankou frappe. Avec ces mots, je largue les amarres d'un conte noir. Noir comme une nuit de tempête. Les pitons étaient pilotes dans le ratsin de père en fils. C'était tout ce qu'il y a de plus normal. Leur maison, elle était au ras de l'eau, sur l'île de Saint. L'île de Saint, la petite sœur d'Ouessant. Face au bout du monde, Penderbet, en breton. La pointe du rat et la pointe du van. Et entre les deux, la baie des trépassés. Leur baie Anaon, la baie des Anaons. L'embarcadère des âmes vers les îles de l'Ouest pour les Bretons. L'histoire a commencé par une nuit de janvier 1918. Sur le golfe de Gascogne, il soufflait un ouragan comme rarement on en avait vu. Et l'Amalia, un trois-mâts barque espagnole, s'est trouvé pris dans les vents, dans le golfe. Il a mis à la cape, il a ramené les voiles, et il a chassé pendant 3 jours devant la tempête. Et les vents et la mer l'ont acculé au ras de Saint. Dans ce petit bras d'eau hérissé de récifs acérés. Quand ils ont vu ça, les Sénans ont sauté sur leur canot et il y a une flottille de secours qui s'est formée. Mais ils n'avaient pas eu le temps d'aller bien loin qu'une grosse lame grise est passée par-dessus le pont de l'Amalia, a brisé les ponts, emporté les mâts. Le vent a fait le reste. Il a poussé la coque dématée sur un récif et la malia s'est brisée. En quelques secondes, il a coulé. Mais il ne s'était pas écoulé une minute qu'un autre navire est apparu à l'horizon. Alors les Sénans ont mis le cap vers lui. Il avait l'air en perdition aussi, celui-là. Il gitait méchamment à bâbord, mais toutes ses voiles étaient dehors. À l'avant, il y avait un fanal qui jetait des lueurs bleues et grises au ras de la crête moussue des vagues. Et on entendait des cris qui venaient du bateau, et on voyait des marins qui étaient sur le pont et qui agitaient leurs bras dans le vent. Et ça hurlait dans toutes les langues de la mer. Au secours! Au secours! La flottille est arrivée. Elle a voulu accoster. Et à ce moment-là, le bateau a disparu. Et il a réapparu dans un autre azimut. Les marins ont remis le cap vers lui. Ils ont voulu encore accoster, mais à ce moment-là, La brume l'a fait disparaître. On ne voyait plus que le pilote à l'arrière, qui tenait la barre. Et encore une fois, le navire a disparu. On n'a plus entendu que les hurlements d'une meute de chiens dans la nuit. Et les marins, quand ils ont entendu les chiens, tous ils sont rentrés au port à l'île de Saint, parce qu'ils n'avaient pas envie d'aller grossir le rang de l'équipage du Bagnose, le bateau de nuit, le bateau de l'Ankou. Ces chiens qu'on entendait hurler, c'étaient les chasseurs Gaiden, les chiens des équinoxes, les gardiens des marins de l'équipage du Bagnose. L'Ankou venait chercher son trophée, une pleine bâtelée de noyés. Le lendemain, la mer avait ramené sur les côtes de l'île les débris de la Malia et quelques corps aussi. Les sénans sont sortis ramasser toutes les dépouilles qui flottaient à gauche, à droite. Ils les ont enterrées et ils se sont partagés les épaves. Les effets des morts ne leur servent plus à rien. Le grand-père Piton, comme il avait été parmi les plus courageux pour essayer de sauver l'équipage de la Malia, il a eu un morceau de choix. On lui a réservé une grande armoire. Et sur la porte centrale de cette armoire, il y avait un miroir. Et pas n'importe quel miroir. Un miroir diamant, avec des angles biseautés. Des miroirs comme celui-là, à Saint, on n'en avait jamais vu. Alors le grand-père Piton, il a mis l'armoire dans la plus belle pièce de sa maison, la chambre du capitaine qu'on l'appelle, parce que c'est là qu'on reçoit les hôtes de marque, les gens de la grande terre, de la famille, quand ils viennent à l'île de Saint, ou bien les négociants en homard, les capitaines au long cours. Et quelques semaines plus tard, ils ont reçu une lettre de la filleule du grand-père Piton, Marie Dagorne, une fille d'Audierne, une fille de la ville. Elle leur annonçait qu'elle partait aux Amériques, mais qu'avant de partir aux Amériques, elle allait leur rendre visite pour la fête du saint patron de Saint, Saint Guénolé. Et le jour dit, la grand-mère, elle était au bout de l'acheter, elle attendait la filleule. Elle est arrivée, et la grand-mère lui a pris ses bagages. « Oh Marie, qu'est-ce que je suis content de te voir !»« Tu vas voir, on t'a réservé une surprise. Dans la chambre du capitaine, il y a une belle armoire. » Et elle a emmené la filleule chez eux. Elle l'a amenée jusqu'à la pièce de l'étage. Elle a posé les bagages, elle a ouvert la porte et elle lui a dit « Tiens, regarde !» Mais cette armoire, pourtant je l'ai nettoyée ce matin. La surface du miroir était couverte de buée. L'eau perlait même par endroits. T'en fais pas, grand-mère, c'est juste un peu d'humidité. Ça doit être ça. Et la grand-mère a laissé Marie. N'empêche que le soir, au moment de se coucher, ça l'embêtait toujours. Dis donc, grand-père, le miroir, là, il y a quelque chose de pas naturel. Il pleure.
Il pleure. Mais non, ça pleure pas, le verre. Ça sue un peu quand il fait chaud, mais ça pleure pas.
Mais je te dis qu'il pleure, grand-père, le miroir.
Mais cette pièce, elle est humide.
Humide? En plein mois de juillet? Ça va pas?
Non, il y a quelque chose de pas normal qui se passe.
Oh, fiche-moi la paix, qu'il a fait le grand-père. Et il s'est retourné. Il lui a montré son dos et quelques minutes après, il a attaqué la gavotte des dormeurs en ronflant un bon coup. Le lendemain matin, le soleil n'était pas encore levé que le grand-père et la grand-mère étaient déjà debout. La grand-mère, elle se préparait la coiffe des Iliennes de Saint. Une coiffe compliquée pour laquelle il faut une pleine bottelée d'aiguilles.
Tiens, écoute, grand-père. On dirait qu'elle est déjà levée.
Ouais. Elle a l'air drôlement contente, même. T'entends?
Ouais, elle chante. C'est qu'elle a dû apporter une belle toilette pour nous en montrer à nous autres, les Iliennes.
Et de l'étage, on entendait une voix qui chantait.
Pégus de gnoll,
De gwein el môr, me war kana, wa drus ma dor, pe wein ya wenk, me a gane, pasan deut koz me kan ive. Marte ganin, stuet me bek, me gane noz, me gane de, me de ganin, stuet me bek, me de ganin, stuet me bek. La 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 la, di na na na.
Au ras de la maison, par la fenêtre ouverte, les grands-parents ont vu une ombre qui passait, sur l'eau. Une grande ombre, celle d'un bateau, toute voile dehors, qui gitait méchamment à bâbord.
Ah ! Jésus-Marie !
Le grand-père et la grand-mère se sont précipités. Ils ont monté l'escalier, 4 à 4. Ils sont arrivés à l'étage, ils ont poussé la porte, et là, ils ont trouvé... agenouillée, à 3 pas de l'armoire.
Elle m'a touché. Elle m'a touché.
Et dans le miroir de l'armoire, ils ont vu la silhouette d'une femme à la longue chevelure brune, dégouttante d'eau. Sa main revenait vers sa cuisse. Entre le miroir et Marie, des gouttes d'eau. Sur le cou de Marie, des gouttes d'eau. Salée.
C'est rien Marie, on va aller à la fête de Saint-Guénolé.
Et le grand-père et la grand-mère, ils ont emmené Marie à la fête de Saint-Guénolé. Ils ne se sont pas beaucoup amusés, le cœur n'y était pas. Le lendemain, ils ont raccompagné Marie à l'embarcadère, elle a pris le bateau pour Brest. Et le surlendemain, elle partait pour les Amériques. Les semaines ont passé. Une lettre est arrivée des Amériques. On leur apprenait que Marie Dagorne était morte là-bas, de la grippe espagnole. Grand-père, il n'a rien dit. Il s'est juste souvenu que la Malia, c'était un 3-mâts barque espagnole. Le lendemain, il est allé voir le médecin du bourg. Il lui a dit « Médecin, qu'est-ce que c'est que la grippe espagnole ?»« Bah, Python, la grippe espagnole, c'est un peu comme la noyade. Tes poumons se remplissent et puis c'est la fin. » Le grand-père est rentré chez lui. Il est monté à l'étage. Il est allé dans la chambre du capitaine. Il a empoigné l'armoire. Il lui a fait dégringoler l'escalier. Il l'a amené jusqu'à une fenêtre. Et de la fenêtre, il l'a fait culbuter dans la mer. Puis il est ressorti. Il est allé à la mairie. Il a demandé le registre des noyés dans le Ratzin. Et il a ajouté un nom à la plume. Marie Dagorne. Et à compter de ce jour... plus jamais les Iliens n'ont voulu se partager les épaves d'un naufrage dans lequel il y avait eu mort d'homme. Ils avaient trop peur, eux aussi, de revoir passer au ras de leur maison l'ombre d'un navire toute voile dehors, gitant méchamment à bâbord. Et namzer dro, enanku esko. Le temps passe, l'encou frappe.